serdiko, dil zerir serdiko, çol çola badiko, har çol çola badiko, çavim xulka xuşta, çavim xulka xuşta, dev destim serzendiko, destim serzendiko.
Ber buruş serhendi, bu karim rahmeti, ber buruş serhendi, bu karim rahmeti.
Aujourd'hui, c'est notre cinquième chronique kurde et la dernière d'une première série. Nous allons en effet faire un break, mais nous reviendrons assurément sur la situation au Kurdistan, notamment syrien, car ce qui s'y passe est très prometteur. Aujourd'hui, nous aborderons tout d'abord la politique de terreur au Kurdistan turc, appelé Bakour. Puis, nous évoquerons quelques nouvelles du Kurdistan iranien ou Rojivat.
Çavim xalqa xuşta, dəstim sərbəlure, dəstim sərbəlure.
L'actualité au Kurdistan turc, au Bakour, c'est effectivement la politique de terreur que mène l'État turc. Le président Erdogan relance sa guerre civile contre le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, et la population kurde, avec son lot de morts et de destructions. Les couvre-feux et attaques par l'armée turque, se poursuivent depuis plus de deux mois à Nusaybin, dans la province de Mardin, à Sirnak et à Jever. Les forces de l'État, n'arrivant toujours pas à rentrer dans les quartiers défendus par les jeunes, bombardent depuis l'extérieur. À Nusaybin, des images de fumée blanche, suite à des bombardements, prises par des journalistes du groupe No More Silence, révèlent l'usage de bombes au phosphore. Dans la ville de Sirnak, où vivent 60 000 personnes, 10 000 membres des forces spéciales de la police et la gendarmerie sont venus en renfort de celles déjà présentes. À Jever, l'État turc a officiellement annoncé la fin des opérations, mais le couvre-feu, qui court depuis plus de 40 jours, est maintenu et les zones rurales ont été bombardées. Par ailleurs, les attaques par l'armée reprennent à Semdinli, province de Hakkari, et à Silopi, au Sirnak, dans les zones rurales de Dersim, de Litché, de Van, etc., etc. Selon un rapport publié par le HDP, donc on rappelle que le HDP c'est le Parti démocratique des peuples, hein, un parti parlementaire qui regroupe de nombreuses organisations révolutionnaires en Turquie. Donc selon un rapport publié par le HDP, l'AKP, donc l'AKP, autre explication, c'est autre rappel, c'est le parti au pouvoir en Turquie, hein, c'est le parti de Erdogan. L'AKP aurait donc décrété 63 couvre-feux et assiégé 22 villes pour faire un total de 817 jours. Et ces chiffres continuent à augmenter. Le rapport affirme qu'un total de 868 civils ont été tués, dont 282 à Cizre, et notamment 177 dans les sous-sols de la ville. Avec ses couvre-feux, destructions et emprisonnements, l'État turc continue sa guerre contre le mouvement kurde, et il s'est muni par ailleurs d'un nouvel arsenal juridique, la déchéance de nationalité. Il s'agit de cibler les Kurdes et autres oppositions pour les priver de leur nationalité, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, avec évidemment une définition très élastique du terrorisme. Il suffit en effet d'émettre n'importe quelle position critique, en particulier en ce qui concerne les opérations militaires en cours contre les Kurdes dans le sud-est de la Turquie, pour être taxé de soutien au terrorisme. Dans ce contexte, Erdogan a ainsi poussé à lever immédiatement l'impunité parlementaire des députés du HDP qu'il accuse d'être en lien avec le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Encore aujourd'hui, au lieu d'une citoyenneté égale et civique, les Kurdes ont deux options devant eux, soit être assimilés par le système, soit devenir des traîtres et des terroristes aux yeux de l'État. Jusqu'à présent, les Kurdes n'ont jamais profité du droit d'une citoyenneté complète et ont été poussés de force à se convertir à la turquicité. Mais Utyegen, professeur à l'université Seir à Istanbul, l'exprime ainsi. Le concept de citoyenneté, sous-entendu dans la Constitution, définit les Kurdes vivant en Turquie comme des Turcs potentiels ou des pseudo-citoyens. Ce sont donc des citoyens dont on peut facilement déchoir la citoyenneté. Sous la présidence d'Erdogan, la Turquie est en train de virer vers un système de plus en plus autoritaire, voire totalitaire, où les droits fondamentaux, comme la liberté d'expression, la liberté de la presse ou le droit à la citoyenneté, sont arrachés à ceux qui ne veulent pas être assimilés par la turquicité, mais aussi à ceux qui refusent de tenir une loyauté aveugle envers l'élite dirigeante.
Cette nouvelle guerre déclarée aux Kurdes par l'État turc est à mettre en regard avec la victoire de Kobané dont nous avons parlé dans nos précédentes chroniques kurdes. Le printemps arabe en Syrie a abouti à une guerre civile sur tout le territoire, à l'exception de la région nord, principalement kurde, le Rojava, où se situe Kobané. Cette région a su prendre son émancipation. On parle de révolution du Rojava en référence à ce processus autogestionnaire promis par le PYD, parti proche du PKK en Syrie. Erdogan et son gouvernement n'ont pas supporté de voir grandir un tel mouvement de l'autre côté de la frontière et ont pris conscience que l'organisation politique qui était en train de se mettre en place sur son territoire à travers les municipalités du BDP, parti majoritaire dans la plupart des villes kurdes, devenait une menace pour l'État. En effet, le projet politique est en train de s'instaurer dans le Kurdistan Nord en Turquie et dans le Kurdistan Ouest en Syrie, réside en une délocalisation du pouvoir centriste de l'État vers les municipalités qui coordonnent les assemblées de quartiers et de villages et qui favorisent la solidarité entre celles-ci. C'est ce qui est appelé par le mouvement kurde l'autonomie démocratique, inspirée du municipalisme libertaire de Murray Bookchin. Ce projet politique prône donc l'autogestion du bas vers le haut, coordonnée par les structures confédérales, mais aussi l'égalité des genres portée par le mouvement des femmes libres, ainsi qu'une économie écologique et coopérative. Ce projet révolutionnaire ne peut que faire peur aux États, vu qu'il est diamétralement opposé à leurs intérêts. Et c'est bien pour cela que l'État turc, extrêmement nationaliste, a de nouveau déclaré la guerre aux Kurdes. Il s'agit donc d'une contre-révolution dirigée vers les populations kurdes qui sont en train de prendre leur autonomie de fait. Depuis l'été 2015, la guerre déclarée contre les Kurdes n'a fait qu'augmenter en intensité, faisant entrevoir un génocide. Les bombardements des positions des guérillas dans les montagnes, dans le Kurdistan, en Turquie et en Irak, ne cesse depuis le mois d'août 2015. Mais sans doute le plus grave est le massacre de plus de 700 personnes dans les villes kurdes, y compris de très nombreux bébés, enfants et personnes âgées. On va maintenant aborder, au travers de l'exemple de la ville de Cizre, une autre tentative de l'État turc qui consiste à changer la population des villes, ni plus ni moins une tentative de gentrification. Au-delà des tueries, le gouvernement entreprend de raser les villes kurdes, notamment les villes rebelles, celles qui ont déclaré leur autonomie, et remplacer leur population par des populations favorables au gouvernement turc AKP. Le gouvernement a mis en place un programme pour éliminer de la carte les villes terroristes, je cite un peu le programme du gouvernement. Puis est occupé depuis 8 mois à passer le rouleau compresseur
sur toutes les villes kurdes qui ont déclaré leur autonomie face à l'État. Mises sous couvre-feu 24 heures sur 24, ces villes et ces quartiers sont assiégés. Il est impossible d'y accéder ou d'en ressortir. Elles sont coupées de toute communication, privées d'eau et d'électricité. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent en état de siège et attaquées par les forces de police et de l'armée. Et ce, durant des semaines ou des mois, allant jusqu'à 100 jours à Sour, le centre-ville historique de Ahmed. Plusieurs témoignages indiquent par exemple, je cite, « La résistance de Sour a été encore plus longue que celle de la commune de Paris, qui a duré 2 mois. » Depuis décembre, l'État attaquait 3 villes simultanément, Cizre, Sour et Silopi. Après plus de 3 mois, l'État a déclaré, je cite, « L'opération est finie », ce qui n'implique que l'arrêt de l'artillerie lourde, alors que l'occupation policière et militaire et le harcèlement quotidien perdurent. Le programme de l'État est clair. Il s'agit de vider ces villes de Kurdes, de détruire les quartiers en résistance, de reconstruire des barres d'immeubles à leur place et faire venir une population non kurde ou en tout cas favorable au gouvernement. Les pelleteuses font leur travail dans les quartiers en ruines de Sour et de Cizre. Elles détruisent les seuls bâtiments qui sont restés debout et enlèvent des tas de gravats pour niveler le sol et faire place aux nouveaux bâtiments. En effet, la quasi-totalité des parcelles des quartiers dévastés de Sour ainsi que de 8 autres districts viennent d'être expropriées par une procédure d'urgence qui empêche tout recours et vont être cédées au TEKI, l'organisme privé mais allié de l'État, qui fait de la spéculation immobilière et qui construit des quartiers entiers de barres d'immeubles.
L'État turc n'arrive pourtant pas à prendre le contrôle de ces villes. Les groupes d'autodéfense des quartiers, organisés par les jeunes femmes et les hommes, se battant avec de simples fusils contre la 2e armée la plus puissante de l'OTAN. Face à la détermination de ces jeunes et au soutien de tout le quartier, les forces de l'État ne réussissent pas à pénétrer dans ces quartiers en lutte. Ils bombardent depuis leurs véhicules blindés, de là où ils arrivent, et parfois depuis les collines environnantes ou encore depuis les hélicoptères. L'État aura mis 3 mois à venir à bout de la résistance à Cizre et à Sur. Les groupes d'autodéfense ont résisté jusqu'au bout, jusqu'aux derniers survivants et survivantes. Quant au reste de la population qui s'était réfugiée en grande partie dans les quartiers ou villes voisines, une grande partie d'entre eux revient en nombre chez elles. Certes, pour découvrir qu'il ne leur reste plus rien, que leur maison est sous les décombres. Mais rien ne leur fait baisser les bras. Et le mouvement kurde s'organise pour reconstruire ses quartiers. Et l'Europe dans tout ça? Elle garde le silence et finance l'État turc. Les États européens ont accepté le chantage d'Erdogan et ont acheté leur silence en échange de la fermeture de la frontière turque avec l'Europe aux personnes réfugiées. Les médias de masse suivent au pied de la lettre les consignes des gouvernements européens et ne relayent que les attentats ou certaines ripostes contre l'armée. Les Kurdes se demandent où vont les 6 milliards d'euros versés par l'Union européenne à l'État turc, soi-disant pour accueillir les réfugiés. Ce qui s'entend couramment là-bas, c'est que cet argent finance Daesh ainsi que la guerre contre les Kurdes. Cette complicité mafieuse des États qui vendent leur image d'État démocratique est d'autant plus dangereuse lorsque l'on pense à l'alliance de l'AKP avec Daesh et aux références qu'a fait Erdogan au régime nazi en tant que modèle efficace. Pour arriver à ses fins, l'Europe accepte de traiter avec un pays qui bafoue ouvertement les libertés individuelles et collectives les plus fondamentales. Un pays qui est en guerre contre ses propres peuples et accepte de lui confier le destin des réfugiés. En même temps que l'Union européenne s'apprête à payer des milliards d'euros à la Turquie comme prix du tri et de la mise en camp des migrants, elle couvre les violences exercées sur les opposants en observant un silence coupable sur les exactions du régime turc. Chacun connaît les bombardements et massacres subis par les Kurdes. Chacun sait maintenant que la presse d'opposition est totalement muselée et que l'épuration des universités et de la magistrature sont en cours. Et l'Union européenne donne 6 milliards d'euros à un État qui est connu pour armer les djihadistes tout en continuant à diffuser partout l'amalgame écœurant entre terrorisme et migration. Voici maintenant des nouvelles de la lutte et de la répression des Kurdes du Rojilat. Le Rojilat est la partie est du Kurdistan, c'est-à-dire le Kurdistan iranien. Peu d'informations circulent sur l'Iran, et en particulier sur la situation des populations, des mouvements et résistances kurdes dans ce pays. Les Kurdes d'Iran ont une très longue histoire de mouvements armés contre le régime iranien. Cependant, à cause de la répression féroce du gouvernement de la République islamique de l'Iran contre toute opposition politique, les combats avaient majoritairement stoppé depuis une dizaine d'années. Pendant que des dirigeants européens concluent des accords sur le nucléaire avec le président iranien Hassan Rouhani, le nombre d'exécutions au Kurdistan continue d'augmenter depuis l'élection de ce dernier. Les fonds qui n'ont cessé d'arriver en masse depuis la levée partielle du boycott n'ont servi qu'à financer les guerres civiles en Syrie et à Bahreïn, ainsi qu'à renforcer la répression interne alors que les populations souffrent toujours plus de la crise économique et des politiques de sous-développement programmées. Dans un rapport publié en avril 2015, l'État iranien avait lui-même reconnu avoir emprisonné 12 000 Kurdes iraniens au cours de l'année. Le gouvernement de Rouhani n'hésite pas à recourir à la peine de mort contre les activistes politiques de tout horizon, y compris les Kurdes. La cour d'Urmiye, ville située au Rojilat, au bord du lac portant le même nom, vient de prononcer la peine capitale contre Hassan Faraji. Celui-ci était en prison depuis 5 ans sans avoir été jugé et son lieu de détention avait été tenu secret. Sa famille est restée sans nouvelles jusqu'à son arrivée à la prison centrale d'Urmiye après 14 mois de torture. Actuellement, plus de 20 prisonniers politiques kurdes attendent l'exécution de leur peine de mort dans les geôles du régime. La plupart ont été condamnés selon l'article de la Constitution qui définit tout acte d'opposition au régime comme un acte contre Dieu et qui est couramment nommé l'article des Kurdes. Récemment, ce sont des travailleurs de plusieurs villes situées sur la frontière irakienne qui se sont mis en grève. Les habitantes et habitants subissent un sous-développement programmé depuis des décennies. En effet, le commerce transfrontalier, souvent illégal, est devenu et reste encore la seule source de revenus possible pour les populations de ces régions. Or, celles-ci sont particulièrement touchées par la répression, l'armée iranienne assassinant librement sur toute la frontière. Le 18 avril à Banna, les passeurs, les commerçants et les ouvriers ont décidé de fermer le marché et toutes les boutiques pour manifester leur colère. Les nouvelles de la grève se sont répandues rapidement et les travailleurs de Serdach et Mariwan sont venus rejoindre leur mouvement. C'est alors dans ce contexte qu'à l'occasion du nouvel an kurde, que le Parti démocratique du Kurdistan d'Iran a annoncé officiellement la reprise de la lutte armée et l'attaque des bases militaires. Il semble que les partis d'opposition kurdes iraniens qui étaient basés en Irak avaient déjà commencé à envoyer leur Peshmerga, c'est le nom qui est donné aux combattants kurdes. Suite à cette annonce, le gouvernement iranien a immédiatement répondu par un déploiement militaire massif. Depuis, des chars défilent dans les rues. Le ministère des Affaires étrangères tente également de faire pression sur le gouvernement régional du Kurdistan d'Irak afin que celui-ci entrave lui-même la circulation des combattantes et combattants rojilati.
Çar helime dal, çar helime dal, bajare amel dal, bajare amel dal, tav govend geriyat da, govend geriyat da, ha gürmin ket bajer da, gürmin ket bajer da,
berburi serhati, bu kanin ahmeti.
Eh bien, cette diffusion de Micro-Rebelle Hebdo se termine. Merci de nous avoir écoutés. Rappelons que vous pouvez écouter et réécouter Micro-Rebelle Hebdo sur notre site microrebelle.fr et également sur Radio PFM 99.9 les mercredis à 22h, les jeudis à 17h et les dimanches à 9h. Précisons enfin qu'il vous est tout à fait possible de participer à l'aventure Micro-Rebelle et de rejoindre notre équipe composée uniquement de bénévoles. Vous pourrez notamment intervenir au sein de nos émissions, par exemple pour traiter d'un événement ou encore pour présenter votre association, votre collectif militant. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre en charge un créneau régulier sur une thématique qui vous tient à cœur. Dans tous les cas, vous disposerez du matériel nécessaire et nous vous formerons à son utilisation. Le plus simple pour nous contacter est de nous envoyer un courrier électronique à l'adresse contact@microrebelle.fr. contact@micro-rebelle.fr. Et enfin, avant de rendre l'antenne, Micro-Rebelle souhaite vous solliciter financièrement. Nous sommes une radio indépendante, sans pub, sans subvention. Vos contributions permettront d'améliorer notre équipement matériel et notre présence Internet. Le plus simple est de nous envoyer un chèque à l'ordre de Micro-Rebelle à l'adresse suivante. Micro-Rebelle, Le Lag, LAG, 23 avenue Jean Jaurès, 62 800 Liévin. Et maintenant, un petit rappel, car on vous en a déjà parlé. Nous vous attendons samedi 2 juillet pour le barbecue de Micro-Rebelle. Venez rencontrer notre équipe, échanger sur ses projets et surtout passer un bon moment ensemble. C'est à 13h dans nos locaux 199 rue Émile Zola à Liévin. Le plan et les moyens d'accès sont sur notre site microrebelle.fr. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez venir avec un plat à partager ou des choses à mettre sur le barbecue ou bien encore des boissons. Ceci dit, vous pouvez aussi arriver les mains vides, vous n'en serez pas moins le ou la bienvenue. À très bientôt donc. Nous terminons cette émission avec le groupe que nous a choisi Sarah, The Spinwires.
Got no place to hide. I think I might start to ignite. Start to ignite. Start to ignite. Start to ignite.